Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Comment ça va, Maxime ?
Ça va, Martin. J'ai l'impression que ça va mieux de mon côté que toi. Alors, je vous préviens, c'est bien Martin qui parle.
Oui, alors.
C'est une spéciale virus.
C'est ça. C'est qu'il n'y a pas que les Bleus qui ont été infectés par
vous.
Un virus. Exactement. Petite rhinopharyngite. Voilà. Moi, au moins, il n'y a pas de suspicion de je ne sais pas quoi, dont on ne sait pas ce que c'est. Moi, je joue carte sur table, c'est la rhino, Maxime.
Une petite rhino des familles, voilà. Un petit quoi, tu es soigné à quoi, le Doliprane?
Ah, rien du tout, des petits lavements de nez. Voilà,
ah si ouais, tu veux même pas savoir. Un peu de Doliprane?
Non, pas non. Mais moi, je suis un bonhomme. J'ai pas de Doliprane. Moi, la fièvre, elle monte jusqu'à dimanche et elle aura tout le temps après de s'éteindre. Mais je veux que la fièvre remonte et je veux démarrer cette Coupe du Monde, enfin cette finale de Coupe du Monde à 43, tu vois. Pour être bien et chaud, chaud patate.
Voilà, que la fièvre remonte.
Exactement.
Et tu nous as. T'es venu avec ton pull?
Quel enfoiré. C'est vrai que j'ai un pull.
Alors, ça sent, non, en fait, ça sent le pull malade.
Je ne vais pas vous raconter ma life, mais oui, alors oui, il y a ça déjà. Et puis, disons que les événements s'enchaînent et qu'on n'a pas le temps de faire de machine à la maison.
Voilà.
Voilà. Les événements s'enchaînent, tout le monde est malade. Donc, si tu veux, on connaît tous cette situation où tu n'as pas le temps de faire de machine et où donc tu vas dans ton dressing, sous les, la pile elle est de plus en plus petite et à la fin, il ne reste plus que ça.
C'est un classique, on a tous vécu. Et il me semblait.
Non, le problème de ce pull, surtout, c'est qu'il m'allait en 2018.
Alors, ce qui est embêtant, c'est que demain, tu bosses.
Ah bah demain je vais en slip. Hein.
Dimanche, tu bosses à partir de 16h et
bah j'ai plus de slip.
Donc du coup, tu avais prévu un truc de 8h à 15h mais tu vas devoir changer tes plans.
Ah bah il va falloir un moment que je passe par la case machine parce voilà. Que au moment il va falloir s'habiller proprement. Et là, j'avoue que bon, j'aime beaucoup ce pull, c'est pas le problème mais il est un peu court.
Bon, enfin, avant de flinguer ton dimanche matin, on va essayer d'éclairer votre vendredi soir, on est à J -2 de la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine.
Je t'arrête tout de suite, on est à J-1, Maxime.
Oui, J-1, c'est demain.
On est à J-1 de la chanson de Maxime qui aura poussé le teasing jusqu'au bout. Il m'a dit qu'il connaissait le titre, il a pas
voulu
le dévoiler.
Ah oui, ça y est, c'est décidé.
Je lui ai proposé VG Dream, ça lui a pas plu.
Alors, je vais être très honnête, je suis pas sûr que ça durera 30 secondes, mais au
pire,
je la ferai deux fois.
Non, mais c'est pas
je connais pas les paroles.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, Maxime?
C'est moi, je viens sans fiche jusqu'au bout.
Ouais, d'accord. Donc ça a l'air d'être une sacrée escroquerie, encore cette histoire, un enfumage
non,
en règle.
C'est pas une escroquerie, ça va être une réinterprétation.
Ouais, d'accord.
Façon musique d'ascenseur. Okay.
Putain, c'est de l'enfumage. On va se faire avoir, les gars.
Non, parce que l'autre, il croit que je vais venir avec une guitare, avec une batterie.
Ah bah oui, moi je
la batterie, elle est déjà utilisée pour Tour du Monde pour les jingles.
C'est vrai. Mais moi, je m'attendais à un peu d'émotion, un peu, tu vois, c'est une finale de Coupe du Monde, mais toi au niveau, Maxime. On n'aura pas ça. Bon, tant pis.
Voilà.
Donc on va parler maladie.
Eh oui.
C'est vrai que ça fait vraiment une voix caverneuse. Mais ouais. Bon, allons-y quand même. Donc 48 heures France-Argentine, finale de la Coupe du Monde. Et on va, comme vous le savez maintenant, il nous reste plus que 3 émissions, Maxime. Hein, je suis un peu ému d'ailleurs.
C'est ça.
Mais on va essayer d'appréhender les enjeux de ce match à travers 3 sujets. Et on débutera par... Ce fichu virus qui décime l'équipe de France, les derniers en date, Konaté et Varane. Rien de moins que la charnière qui a joué face au Maroc. Voilà, donc on essaiera d'en savoir un peu plus sur ce virus, et notamment avec ce que nous ont dit Randal Kolo Muani ou Ousmane Dembélé cet après-midi.
Alors ce vendredi, c'est une émission spéciale complotiste.
C'est clair.
Alors spécial complot, on va continuer après le virus, l'arbitrage, parce que c'est un truc qui traîne un peu depuis le début de la Coupe du Monde des Argentins, qui obtiennent pas mal de pénalties. Et on va se poser la question suivante: est-ce qu'il faut craindre l'arbitrage et le storytelling autour de Lionel Messi avant cette finale de Coupe du Monde?
Et le troisième sujet, on se posera la question: entre 2018 et 2022, quel est le parcours le plus remarquable entre les deux équipes de France? Avec en creux aussi une question, hein: quelle est la meilleure des deux? Alors, il faudra sans doute attendre.
Ouais.
Dimanche 18h ou 19h ou 20h ou 21h si on a une séance de tir au but digne des dantesques, mais voilà, on se posera aussi cette question en creux.
Là, il serait vraiment dantesque à 21h, c'est-à-dire que le match aurait duré 5h.
Ouais. Bah ouais,
et mais qu'on aurait eu peut-être. Bah oui, c'est exactement ça, je suis d'accord avec toi. On ne sait jamais. Et si on arrive au 32e tireur.
Ouais, bah ça sera à toi, Maxime, d'y aller.
Ça sera à moi, mais je suis prêt, moi.
Alors, je vous dis juste un truc. Une fois, j'ai vu Maxime tirer un pénalty.
Alors.
À l'Urban, vous savez, à 55 oui, avec les. Et il a mis le pénalty dans la rambarde.
Alors,
donc c'est même
juste
pas
à
sur
côté,
le poteau.
Parce que moi...
C'est pas sur
alors,
le poteau, c'est dans la rambarde.
Indice.
C'est dans la rambarde.
Indice pour l'Argentine, je les tire en gros. Pied droit, vous voyez, Andras Bremeux en finale de la Coupe du Monde de 90, petit filet, croisé du droit.
Ah, c'était pas petit filet.
Ah oui, mais parce que le but est trop, est pas assez large.
Ah ouais, d'accord.
Et on m'a dit après, t'aurais dû mettre un pointu. Moi, je sais pas faire les pointus.
Mais il y a beaucoup de choses que tu sais pas faire au football, Maxime.
Ah oui, je serais pas là sinon.
C'est vrai. On démarre cette émission et on va parler de ce virus non identifié, même si Colomoigny a parlé de petite grippe. Qui décime l'équipe de France jour après jour. Alors, retour sur les épisodes précédents. Ça a démarré avec Adrien Rabiot, Dayo Upamecano et Kingsley Coman qui n'ont pas pu défendre leur chance lors de France-Maroc, même si certains étaient sur le banc et que Rabiot était carrément en isolement. Mais bon, ces trois-là n'ont pas pu jouer. Et là, on apprend aujourd'hui que ça touche Raphaël Varane et surtout, a priori, Ibrahima Konaté. Les symptômes sont un peu plus rudes pour le joueur de Liverpool. Bref, ça commence à faire beaucoup, 5 joueurs touchés. Ça nous prouve que le virus circule autour de cette équipe de France. Vous avez vu comme nous les images de joie de Liesse, mais en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. Les mecs sont qualifiés pour une finale de Coupe du Monde, donc forcément, ils se font des bisous et des câlins. Bref, quand même, Maxime, il y a une vraie menace invisible qui plane autour de cette équipe de France. Je le rappelle simplement, à 48 heures d'une finale de Coupe du Monde.
Ouais, à 48 heures d'une finale de Coupe du Monde et on verra ce que donnera la journée de demain parce qu'évidemment, j'irais presque heureusement qu'il reste 48 heures parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer et on a encore une chance que ça se résorbe. Mais c'est quand même la préparation de finale de Coupe du Monde la plus improbable, on va dire, au moins de l'histoire des Bleus parce qu'à part d'avoir perdu Laurent Blanc en demi-finale en 98, le reste était assez linéaire. Là, oui, en effet. Et comme tu l'as dit, c'est une menace un peu invisible. Donc, c'est problématique parce qu'il faut quand même rappeler ce qu'est la vie d'une équipe. À table, ils mangent tous sur une grande table. Ils sont alignés en randonnion, côte à côte.
Dans le vestiaire.
C'est un vestiaire. C'est-à-dire qu'il y a des mélanges, il y a des contacts. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il faut être inquiet? Oui, d'une certaine manière. Parce qu'on ne sait pas. C'est un virus. Donc, peut-être que demain, Kingsley Coman sera frais comme un gardon. Peut-être que Varane aussi. Mais on n'en sait rien. Donc, voilà, il y a cette incertitude. Et pour le coup, on ne va pas faire du teasing. Mais ça va durer jusqu'au matin du match. Parce que le dernier réveil, évidemment, c'est celui qui compte. Ce qui est embêtant là pour l'instant, c'est que les joueurs sont en salle, mais ils ne s'entraînent pas. Alors, vous allez me dire aussi qu'en salle, il y a aussi Tchouaméni qui avait un problème à la hanche. Théo Hernandez qui a son problème au genou.
C'est moins grave. Ça.
Parfois, on a besoin aussi de souffler. Et quand on arrive à la fin d'une compétition, ce qui compte, ce n'est pas tant la charge d'entraînement, mais il faut trouver le bon équilibre entre peu de charge d'entraînement, de la récupération et une perte de rythme. Et dernier truc avant de te laisser la parole, Randal Kolo Muani a parlé de petite grippe. La dernière fois que j'ai entendu parler de petite grippe, c'était le Covid. Alors, Randal Kolo Muani, comme moi, n'est pas médecin. On est à peu près à 7 ans d'études de devenir médecin. Mais n'empêche que oui, c'est très embêtant parce que c'est voilà comme il y a marqué si vous regardez la vidéo sous moi, il y a marqué une menace invisible et c'est encore pire qu'un coup.
C'est encore pire qu'un coup. Et puis finalement, moi je me souviens de Samuel Umtiti qui a passé sa Coupe du Monde 2018 à faire des tours de stade et à pas participer aux oppositions collectives ou aux entraînements collectifs si ce n'est la veille des matchs. Donc ça m'inquiète pas du tout pour jusqu'ici pour Théo Hernandez et Aurélien Tchouaméni. Le juge de paix ce sera demain. C'est-à-dire que si demain, mais c'est ce que je disais mardi. C'est-à-dire, pour moi, des joueurs qui sont absents la veille d'un match, c'est forcément problématique et il y a forcément une incertitude. Là, on n'est pas encore dans l'incertitude. Je parle pour Tchouaméni et Théo Hernandez. Pour moi, on est dans l'incertitude concernant Konaté et Varane. Pourquoi? Ça suit à peu près le même parcours que Dayot Upamecano, qui avait séché l'entraînement de lundi. Enfin, il ne l'avait pas séché d'ailleurs, mais il avait dû le sécher, on va dire. Mardi, il n'est pas là. Mercredi, il est sur le banc, mais il est trop court. On est dans les mêmes délais pour Konaté et Varane. Je ne dis pas qu'ils ont les mêmes délais de guérison, je ne dis pas qu'ils sont atteints, qu'ils ont la même charge virale ou des choses comme ça. Mais, en tout cas, il y a une incertitude. Et là, pourquoi ça pose problème aussi? C'est pas parce qu'on touche à deux titulaires.
Oui.
Pour Konaté, c'est quasiment un titulaire. Varane, ce serait... Alors, perdre Varane, ce serait absolument dramatique. À la veille d'une finale de Coupe du Monde, lui qui connaît mieux que quiconque tous les enjeux d'une finale, qui en a gagné 500 milliards, ce serait un cataclysme. Et surtout, on n'est pas à l'abri de voir de nouveaux cas fleurir. Parce que oui, certes, ce que nous a expliqué Colomoigny, c'est que quand il y en a un qui est malade, il y a une espèce de cordon sanitaire, il est mis dans sa chambre, il est à l'isolement. Mais bon, et Varane et Konaté, ils étaient dans le vestiaire, ils étaient sur les images de FFF TV au beau milieu de tout le monde. Il y avait des embrassades, il y avait des chants, voilà, il y avait des hugs. Enfin, je veux dire, voilà, c'est... Donc le virus circule au sein de cette équipe de France. Et c'est ça qui est presque plus inquiétant. C'est-à-dire qu'il est toujours là, il est vivace. Il ne faudrait pas que ça tombe sur d'autres. À la limite, si on n'a que Konaté et Varane qui sont touchés jusqu'à dimanche, c'est un moindre mal.
Et si on devait faire une timeline un peu du souci, souvenez-vous que Kinsey Coman ne savait pas qu'il était touché et pourquoi il n'était pas rentré. On l'a appris après.
Oui, le matin du match, il était le matin, encore.
Ouais, ça allait encore. Donc voilà, ça peut évoluer. Et on est deux jours après le match et il est encore en salle. Donc ça vous donne aussi une petite idée de 48 heures, 72 heures. Problématique. Donc après, il faudra voir à partir de quand Varane et Konaté ont eu les symptômes. Et aussi, évidemment, les organismes ne sont pas égaux. Donc bah, que ce soit possiblement moins long, mais c'est sûr que c'est.
Par exemple, Upamecano pouvait jouer. Ce qui n'était pas le cas de Rabiot. Donc, on peut imaginer qu'il y en a un des deux là aussi qui puisse jouer. Enfin, voilà, là, on est dans l'expectative la plus totale.
Ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, c'est pas tant qu'ils soient malades, ça peut arriver, la clim, etc. On peut imaginer les conditions. C'est aussi que Rabiot se retrouve isolé.
Ouais, là, c'est voilà. Plus la clim.
Quand il y a isolement, on se dit, bon, c'est problématique parce qu'un rhume, vous ne vous isolez pas, vous prenez les médicaments qu'il faut. Et même avant une finale de Coupe du Monde, avant une demi-finale, avant un quart, c'est pas les mêmes façons de procéder.
Une espèce d'omerta autour de ce virus. On ne sait pas.
Ouais, non, mais c'est pas une omerta. C'est qu'en fait, on voit des trucs passer partout. Covid, ouais. La grippe, la grippette, on a le syndrome du chameau que je découvre. Voilà. Donc, il y a 10 milliards de trucs. Donc, est-ce qu'ils savent ? Il y a aussi le secret médical qui fait qu'on ne révèle pas. Et puis, bah, accessoirement, c'est aussi du secret industriel. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire aux Argentins ce qu'ont vos joueurs.
Mais c'est ça. Et d'ailleurs, quand Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé récitent les éléments de langage de la communication de la FFF, à savoir on n'est pas inquiet, ils vont bien, ils pourront jouer dimanche, il n'y a pas de problème, tout va bien. On n'est pas obligé de les croire quand même.
Et Raphaël Raymond, chef de presse, a tout de suite dit ils ne sont pas médecins, en gros, on communiquera après. Et la communication qu'on a pour l'instant, c'est juste qu'il y a des gens sales. Voilà
donc il n'y a pas de communication officielle là-dessus. Et je rajoute quelque chose, c'est qu'il me semble bien qu'avant le match du Maroc, on disait la même chose, c'est-à-dire que Rabiot et Upamecano allait bien et que fallait pas s'en faire. Évidemment qu'ils vont dire ça. Évidemment qu'ils vont dire ça parce qu'ils vont pas donner de billes aux Argentins. C'est pour ça qu'il faut prendre ces propos avec beaucoup de pincettes. J'espère et peut-être que tous les joueurs seront disponibles, mais il y a, et ça on ne peut pas le nier, une vraie menace qui passe sur cette équipe de France.
Et pour ceux qui sont des fervents défenseur de la chatte à Dédé, je crois qu'elle est définitivement partie cette année 2022.
Là, la pauvre, je ne sais pas où elle est, mais
elle n'est pas sur pattes.
Non, j'aimerais pas être à sa place parce que entre les forfaits et les virus, c'est un carnage cette équipe de France.
L'autre sujet qui agite le landerneau de l'équipe de France, ou des suiveurs, ou de ce que vous voulez, c'est évidemment un truc qu'on a vu fleurir quand même au long de la compétition. Alors, moi, je ne suis pas un fervent adepte de tous ces complots cachés, mais il y a le fameux storytelling qui voudrait que une Coupe du Monde qui se termine par la victoire de Lionel Messi pour son dernier match en Coupe du Monde, son dernier match peut-être avec l'Argentine, parce que après tout, peut-être qu'il va finir ça dimanche, parce que ce serait quand même la plus belle manière de clore ce livre d'histoire de l'Argentine. Est-ce qu'il faut craindre, Martin, un arbitrage pro-argentin pour cette finale face aux Bleus, qui sont un peu dans le rôle des méchants, on va dire, des empêcheurs de tourner en rond?
Alors, pour une raison peut-être, pour une autre raison, absolument pas. C'est-à-dire que si on imagine un complot de la FIFA qui tire les ficelles, qui donne des consignes aux arbitres pour lui dire « il faut absolument que Messi gagne la finale de la Coupe du Monde parce que ce serait la plus belle histoire du monde », il finit sur un trophée que tout le monde veut le voir gagner et on se souviendra de la Coupe du Monde au Qatar comme d'une réussite absolue et du triomphe de Messi, c'est non. Pour ça, c'est non. Il n'y aura pas de consigne. C'est pas. Après, qu'il y ait un arbitrage qui puisse pencher un tout petit peu en faveur des Argentins parce qu'il y aura une pression énorme sur l'arbitre, parce qu'il va jouer dans la Bombonera. Globalement, ce match, ça va être la Bombonera, le Stade Lusail. Donc voilà, il va y avoir... C'est comme une équipe qui joue à domicile face à une équipe qui joue à l'extérieur. L'Argentine sera dans le rôle de l'équipe qui joue chez elle. Et donc peut-être que sur cette indécision, même si finalement le VAR... Alors, je ne suis pas le plus grand défenseur du VAR, mais il n'y aura pas de scandale parce qu'aujourd'hui, il y a le VAR. Il n'y a plus de buts dont on parle pendant... Tu hoches la tête, Maxime, mais disons que au moins c'est beaucoup plus rare. Et je ne pense pas. Après,
le scandale, des fois, c'est quand tu vas pas voir le VAR, justement.
C'est vrai, mais moi, par exemple, sur tous les pénaux accordés à l'Argentine,
oui, ça, c'est sûr.
Je vois pas un scandale. Mmh. On peut discuter sur certains. Sur le dernier, avec le gardien qui fauche, je sais plus quel joueur qui est en bout de course, on peut discuter. C'est pas flagrant, mais enfin, le penalty, pour moi, c'est pas un scandale. Donc, il n'y a pas de complot pro-argentin et donc anti-bleu. Après, peut-être que l'environnement, le contexte pourra faire pencher les choses.
C'est un peu comme dans des matchs de championnat où il y a le coup de sifflet pour les gros. Alors, vous allez me dire, le gros sur cette finale, ça ressemble quand même à l'équipe de France, sauf que le très, 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 très gros, c'est un individu, il s'appelle Lionel Messi. Voilà. De manière inconsciente, ça peut arriver. Voilà. Vous sifflez, c'est le coup de sifflet pour la star. Ça arrive. Voilà. Tout simplement, en revanche, comme tu l'as dit, je pense que la FIFA ne serait pas mécontente que Lionel Messi soit champion du monde, parce que ça raconte une histoire aussi. C'est une manière de clore dans une ère où les joueurs ont pris le dessus sur les équipes. Maintenant, voilà, j'imagine pas d'agenda caché pour faire chuter les bleus, les méchants français face aux gentils argentins. Non, je pense que ce ne sera pas ça. Mais en fait, ce qu'il y a autour de l'arbitrage de cette Coupe du Monde, on aura toujours un petit doute. Alors, France-Maroc a été un exemple quand même de match où il y a trois coups de sifflet et demi. Vous pouvez en donner 4 fois plus. Voilà.
C'est une boucherie charcuterie.
C'est une boucherie charcuterie. Et moi, j'ai eu des supporters marocains qui sont venus me voir sur les réseaux sociaux me signalant « Mais vous avez vu Hernandez quand même quand il prend son coup sur le genou, ça peut siffler aussi côté marocain. » Et oui, ça pouvait siffler parce qu'il pousse un peu loin le ballon. Il le perd, il y a ce contact derrière. En fait, le problème, c'est ce qui fait aussi douter dans ces matchs-là. Et c'est un peu la FIFA qui est prise, entre guillemets, à son propre piège. Elle voulait... Il y a eu beaucoup de choses négatives autour de cette Coupe du Monde, évidemment. J'ai l'impression que ça passe comme une lettre à la poste, mais l'organisation du Qatar, la façon dont elle a eu la Coupe du Monde, le sort réservé aux travailleurs, tous les droits qui sont un peu bafoués au Qatar.
Donc, l'écologie.
C'était de raconter une Coupe du Monde positive. Et une Coupe du Monde positive, ça passe aussi par très peu de cartons rouges et du jeu en veux-tu, en voilà. La FIFA a réussi, mais... Le corollaire à tout ça, c'est que quand vous laissez trop jouer des fois pour pas siffler, vous oubliez de siffler des choses et vous instillez une forme de doute dans l'esprit des gens. Et je peux comprendre des supporters marocains qui se disent « Ah bon, voilà, là, ils n'ont pas sifflé pour nous, ça pouvait y aller. » Mais alors qu'on peut siffler 30 fois aussi côté français, contre les Marocains, pardon, lors de la demi-finale, parce que il y a des tacles qui sont à la limite. Mais voilà, c'est un peu, la FIFA est un peu prise à son propre piège là-dessus. Mais encore une fois, un arbitrage pour Argentin. Alors, ça se trouve, ça va jouer sur un pénalty qui sera absolument pas valable ou qui sera très discutable. Mais pour moi, il n'y a pas d'agenda caché contre les Bleus parce que de toute façon, la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Et en soi, elle n'a pas besoin de privilégier quelqu'un pour être gagné. La dernière fois que j'ai vu une finale de Coupe du Monde qui prêtait à discussion, c'est RFA Argentine 90. L'arbitre s'appelle Codesal. C'est le gendre de João Avalanche, qui est patron de la FIFA, qui est brésilien et qui avait sûrement pas très envie que les Argentins gagnent. Et eux, ils pouvaient un peu l'avoir mauvaise sur cette finale. Voilà.
Non, mais là, aujourd'hui, il y a trop de moyens, si tu veux, pour moi. Il y a trop de garde-fous. Il y a trop de garde-fous. Parce que l'exemple que tu prends là aujourd'hui, ce serait purement et simplement impossible. Quand j'entends Pep, le défenseur portugais, dire que ça l'étonne pas, que de toute façon, il y a un plan pour que l'Argentine soit championne du monde, à un moment, il faut juste raison garder. Je rappelle aussi, simplement, c'est un fait que l'Argentine a perdu son premier match.
Et qu'ils se sont refusés 3 buts. Ils peuvent mener 4-0 à la mi-temps.
Et c'est vrai qu'ils se font refuser 3 buts lors de la première mi-temps de leur premier match. Donc s'il y avait un plan pour donner la Coupe du Monde à Lionel Messi, je pense que, déjà, ça se verrait un peu plus. Et c'est tout simplement impossible. Ouais. Voilà, c'est tout simplement impossible. Donc...
Et puis, j'ai envie de dire à ceux qui pensent ça, mais faites autre chose dimanche. C'est pas la peine de regarder un truc qui est pourri jusqu'à la moelle. Tout simplement. Si vous pensez que tout est pipé, moi, quand je pense que tout est pipé, je vais voir ailleurs.
Comme Scotty.
Scotty Bibi. Je suis peur.
Ouais, non, t'inquiète pas.
On passe au troisième sujet. Ouais, et on va parler de finale de Coupe du Monde de suite. C'est évidemment exceptionnel. 2018 versus 2022. Martin, avant la grande finale, avant même la Croatie en 2018, lequel des deux parcours est pour toi le plus remarquable?
C'est une bonne question. Je me la pose depuis, parce qu'on anticipe les sujets, donc ça fait quand même quelques jours qu'on y réfléchit, Maxime, pour être le plus brillant possible à ce micro. En 2018, le parcours, objectivement, est plus difficile, parce que tu fais Argentine, Uruguay, Belgique, et que donc, bah voilà, plutôt que Pologne, Angleterre, Maroc, c'est plus difficile. Mais, cette équipe de France a eu beaucoup plus de pépins à surmonter. On parle évidemment des forfaits qui ont été énormes, de la perte du Ballon d'Or, de titulaires indiscutables, Kanté, Pogba, Benzema, pour ne parler que d'eux, Kimpembe aussi, qui a obligé Deschamps à tout rebâtir. Et on avait presque moins d'espoir pour les champions du monde en titre que pour cette équipe de France qui sortait d'une finale de l'Euro 2016. En plus, il a fallu se réinventer pour Antoine Griezmann, réenclencher pour Olivier Giroud qui était... Bah voilà, c'est des histoires de résurrection. Et ces histoires-là, pour les anticiper aussi, il fallait être sacrément futé. Donc je dirais que puisqu'il y a plus d'embûches, le parcours 2022 est pour moi plus impressionnant que celui de 2018, même si sur le papier, celui de 2018 était plus relevé.
Ouais, vous connaissez le poncif qui dit qu'arriver au sommet, c'est pas facile, mais c'est jouable. Y rester, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué en plus quand entre les deux, vous avez chuté de très haut pour l'Euro 2021. Donc moi, je te suis, même si il ne faut pas oublier 2018, ce qui est remarquable, en fait, c'est la discipline de cette équipe. Parce que pareil, on dit toujours, ouais, mais détruire entre guillemets ou contenir un adversaire, c'est plus facile que d'aller créer. Oui, sauf que quand vous demandez à des joueurs de talent comme Mbappé qui ont envie de faire autre chose, comme Griezmann qui à ce moment de l'histoire était plus haut, de rester 90 minutes à contenir un adversaire, ça demande une discipline incroyable et c'est tout aussi remarquable. Maintenant, ce que j'aime avec ce parcours de 2022, c'est qu'il est imparfait. C'est une équipe imparfaite en son sein parce qu'elle revient d'un énorme crash contre la Suisse. C'est pas que 10 minutes, c'était l'Euro 2021. Son sélectionneur est discuté parce que après un crash comme ça, on peut penser qu'il aurait dû partir. Il fallait reprendre la main, il l'a fait. Il fallait retrouver des résultats, ce qu'il n'a pas fait tout de suite et ce qui aurait pu encore plus dire que l'équipe de France allait vraiment se planter pour la Coupe du Monde. Des forfaits ici et là et une équipe qui n'est pas parfaite. Voilà. Autant l'autre, elle avait cette froideur, cette perfection proche, on va dire, au niveau de sa rigueur. Cette équipe, elle n'est absolument pas parfaite, hormis dans l'état d'esprit, hormis dans... Parce que pour un Griezmann, vous avez aussi un Mbappé qui va moins bien défendre. Pour un Griezmann, vous avez aussi des joueurs qui sont plus justes. Il suffit de regarder, on regardera peut-être à la fin de la Coupe du Monde, les notes des joueurs. Je ne serais pas étonné que ce soit moins élevé parce qu'il y a des personnes qui se sont vraiment révélées, mais d'autres qui ont dû faire le sale boulot et qui ont connu des moments de faiblesse que l'équipe de France de 2018 n'avait pas.
En fait, pour résumer ta pensée, le parcours il est plus remarquable en 2022 parce que l'équipe elle est moins forte.
Voilà.
Ben c'est ça. Mmh. C'est-à-dire que oui, moi je pense aussi que s'ils sont champions du monde en 2022, ce sera malgré tout une équipe moins forte qu'en 2018. Parce qu'il y a beaucoup plus de trous d'air, il y a beaucoup plus de déséquilibre. Parce que aussi Pogba et Kanté, malgré tout, Tchouaméni il fait pas une Coupe du Monde à la Kanté non plus. Et donc, moi je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là que il la gagne. S'il la gagne, attention, oulala, que n'ai-je point dit, parce qu'on va me le ressortir ça. S'il la gagne, ils l'auront gagné à l'expérience, l'auront gagné à la roublardise, ils l'auront gagné au métier. Ils l'auront gagné au métier. 2018, ils la gagnent à la maîtrise. Et donc c'est plus spectaculaire. Donc c'est pour ça que, moi je les trouve 4 ans plus tard, mais après tout ce qui leur est arrivé, c'est aussi, ça s'explique assez facilement. Je les trouve moins bons.
Et ce qui est fort, c'est que tu dis au métier, c'est-à-dire que là, on est en train de vous dire, comme si c'était un match de championnat.
Ouais.
Là, les gars, ils l'ont gagné au métier. Mais ce qui est fantastique, c'est de le faire 4 ans plus tard, avec le crash de l'Euro, avec 4 ans de plus dans les pattes, et de se dire que les gars ont une recette et savent l'appliquer. Or, cette recette-là, l'Italie 2006 aurait dû l'avoir, l'Espagne 2010 aurait dû l'avoir, l'Allemagne 2014 aurait dû l'avoir, et pourtant, non. Donc, il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel dans cette équipe là-dessus. Parce que si les autres se sont plantés, et parfois dans des groupes, notamment l'Italie 2010, qui n'était pas dingo, le groupe, il y avait notamment la Slovaquie et la Nouvelle-Zélande, eux, ils ont passé le premier tour un peu comme une lettre à la poste, et puis la suite, ils ont avancé avec leurs défauts, avec leurs imperfections, mais ont su en tirer une force, et la gestion de leur temps faible est quand même exceptionnelle, parce qu'en 2018, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais tu prends par exemple le Pérou, on va te dire, après coup, c'est facile, on pourrait dire c'est un temps faible à la mi-temps. Non, ils en ont fait un temps fort. Ils en faisaient un temps fort. Ils étaient complètement froids. Et peut-être le temps faible qu'ils ont, c'est sur
C'est l'Argentine sur un coup du sort.
C'est l'Argentine sur un coup du sort. Bah, oui. Et la finale sur cette première mi-temps. Mais or, la première mi-temps de la finale, il la termine avec un tir cadré et 2 buts.
Ouais.
Donc voilà, il y avait ce côté un peu froid. Et quand même, ce qui est intéressant, c'est que 2018, on en parlera après, il faudra voir après la finale, les émotions. Laquelle des deux aura donné plus d'émotions? 2018, il y a énormément d'émotions alors que c'est une équipe froide. Comme quoi, les deux ne sont pas contradictoires.
Ouais, bah, c'est ce que disait Ousmane Dembélé en conférence de presse. Il a dit, ouais, bah, là, on est moins foufou. Oui, il y a moins d'émotions, on est plus calme, on est plus serein. Il y a eu plus de sourires et de fêtes après la Belgique qu'après le Maroc. Bah ouais, c'est un peu l'histoire de cette Coupe du Monde. Mais bon, ça, on en reparlera, on a le temps.
Ouais, je crois qu'on a le temps d'en reparler.
Voilà, on a le temps. Et puis là, à un moment,
faut aller prendre la Valda.
Voilà, faut aller prendre la Valda déjà. Ouais, parce que déjà, avoir fait cette émission, l'avoir fini en un seul morceau, c'est pas si mal, Maxime, c'est pas si mal. On se donne rendez-vous demain. Et heureusement, c'est pas moi qui vais chanter parce que j'aurais eu une gamme qui se situe entre le Barry White et le Barry White. J'aurais pas eu le choix de chanter autre chose.
Imagine.
Ah, tu vas chanter Imagine?
Ouais. Oh, bah ça, oui.
Ouais.
Imagine quand même que ça serait l'ironie du sort. On parlait des bleus, etc. On est côte-côte depuis quasiment un mois.
Ouais.
Bah, ouais. Et que là, il me refile son virus.
Et que dimanche,
j'ai la voix cassée.
Deux forfaits.
Non, mais au-delà, c'est vrai que je puisse pas chanter.
Moi, non, mais Maxime. Bah, alors, du coup, chante dès maintenant.
Ah non, non, non.
Ah,
non,
bah,
non.
Oui, bah oui, bah
ah,
oui.
Non,
oui.
Non. Ah, bah non, non, non. Moi, j'ai dit, je le ferai samedi. Je le ferai samedi. Il faut vendre la finale. C'est comme une cérémonie d'ouverture.
Après, franchement, la voix cassée, ça a jamais empêché personne de chanter.
Mais c'est peut-être plus. Mais peut-être que je changerai de.
Ça pourrait pas être pire, en tout cas.
De...
Pour t'entendre chanter régulièrement.
Je changerai de chanson. Oh là là. Je changerai de chanson et un petit Barry White.
Ouais, c'est pas mal.
Une petite tata yo-yo.
Bah oui. My everything. Tu vois, c'est pas mal. Hein,
ouais, c'est pas mal. Ouais.
Ce qu'il faudrait pas, c'est qu'on soit forfait tous les deux ce week-end. Mais vous inquiétez pas. Même dans notre lit, on assurera le FC Stream Team. T'es d'accord avec ça, Maxime?
Oui.
Voilà. Donc rendez-vous demain pour la chanson de Maxime.
Oui.
Voilà, pour la chanson de Maxime, pour les conférences de presse d'Hugo Lloris, Didier Deschamps.
J-1. On parlera de la compo, évidemment, et de nos inquiétudes si on ne voit pas les 11 habituels sur le terrain.
Exactement, on en reparle demain. Merci Simon, aux manettes.
Merci Quentin.
Au visuel.
Au visuel.
Et à demain. Ciao.
Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.